ici le printemps des poètes de la rue Alfred Duméril. Complètement improvisé et sans polémique du tout, ni Sylvain, ni Tesson. Un vrai printemps des poètes, sans polémique. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir été invités par Fabien pour vous lire des textes kabyles, des textes de poésie en prose, en vers, accompagnés de musiciens. Sofiane du groupe Tiruza, Mour. Et donc, nous allons vous lire ces textes. Voilà. Donc, moi je m'appelle Katia. J'ai fait mes études à Toulouse, je suis partie pendant longtemps. J'ai fait mes études pas très loin d'ici, sur les allées Jules Guesde. Donc pour moi, c'est un petit peu un retour aux sources. Le métro en plus quand même. Et je le redis sans polémique, bien au contraire. Et donc ces textes, je vais vous les lire en suivant quelques... Je les ai un petit peu organisés, suivant quelques chapitres, quelques têtes de chapitres. Voilà. Et donc nous allons commencer par Terre. Terre. Donc... Pour commencer, un texte de Mouloud Feraoun, La terre et le sang. Du haut du village, ils purent admirer une bonne partie de la Kabylie. Au nord, le massif des Aïd Djellat, qui se dresse comme une barrière imposante devant la Méditerranée. Au sud, le Djurdjura, encore plus hermétique, qui semble cacher au regard un monde imaginaire, très différent du nôtre. C'est un colosse dénudé, d'un blanc de cendre assez terne, sur des contreforts et dont les cimes se confondent souvent avec les gros cumulus. Mais en ce mois d'avril au ciel bleu, ses sommets sont encore couverts d'une neige éblouissante. Il offre alors aux montagnards la plénitude d'un spectacle grandiose, fait d'extrême puissance et de beauté sauvage. Les villages minuscules qui se terrent à son pied ou s'égrènent sur les sommets des massifs plus modestes ont l'air d'une multitude apeurée qui se prosterne devant un dieu sévère. À l'est et à l'ouest, partout des collines, des montagnes, des vallées profondes et étroites où se devinent des rivières qui toutes vont se rejoindre là-bas dans la plaine. Une plaine d'ailleurs étroite, simple couloir entre les massifs nord et le massif sud. Un vrai paysage de montagne. Cependant, le visage a ses traits particuliers bien à lui. Ce n'est pas le vrai que constitue le fond du tableau. L'olivier domine. Le grand olivier tortue, au feuillage bleu, presque noir du côté vernissé, clair, presque blanc de l'autre. Les rayons du soleil, le jeu de la lumière et l'ombre accentuent les reliefs et font naître l'illusion. Exil. Taosam Rouche, Jacinthe Noire. À Paris. Nous n'avons plus de village. Les maisons et les tombes, tous nous rejettent. Notre pays est enfermé en notre âme. Qui nous le volera, ce pays idéal, à l'image du vrai, de celui qui nous a repoussés? Nos yeux seuls peuvent le contempler, sans en être aveuglé. Il est cruellement beau, hérissé de monts et de rochers impitoyables, creusé de ravins amers. Pas une touffe de verdure, pas une parcelle de terre grasse. Mais il baigne dans une lumière limpide et bleutée, une lumière d'au-delà. Les êtres qui l'habitent n'ont été créés que pour mourir, mourir de faim avec grandeur et simplicité. Et vous en êtes parti? Pour vivre, Marie-Thérèse, pour vivre. Nous pensions pouvoir étouffer en nous la voix du pays, la voix de la mort. Mais ce pays que nous avons fui, ce pays auquel nous avons voulu échapper, il est en nous. Comment échapper à ce qui est soi-même, à ce qu'on aime inexprimablement? Âme rouge, étoile secrète. Comprends-tu? Je suis orphelin. Nous sommes tous des orphelins. À petit bruit pleure ma détresse, une flamme qui va mourir et que nourrit sa propre mort. Une détresse sans aucun nom. Une détresse d'orphelin parmi les hommes orphelins qui ont perdu leur enfance au ventre de la terre orpheline. Connais-tu mon père et ma mère? Où me montreras-tu ma patrie? Car je n'ai ni père ni mère. Je suis orphelin, sans patrie. Je ne suis pas de ce pays, je ne suis pas de votre monde. Je suis un homme et je suis Dieu. Je ne suis ni homme ni Dieu, car l'homme pleure d'être Dieu. Et le Dieu souffre d'être un homme parmi les hommes. Je ne suis lieu d'aucune chose. Le vent, la pluie me traverse, et la lumière de mes yeux prend sa source au-delà de moi. Je suis le carrefour des voix qui se croisent dans mon silence. À quel signe connaître ma voix parmi les villes voix du monde? Je dis « je » par habitude, parce que pour vous, c'est plus facile. Vous voyez une forme humaine sur laquelle vous mettez un nom. Moi, sur la face de ma nuit, je n'ai rien vu par transparence. Me voici remplie de présence, me voici l'épouse du vent, me voici forêt chuchotante, me voici répandue sur la mer. Toutes les saveurs de la terre s'exhalent dans ma bouche sèche. Toutes les sèves de la terre montent en moi comme un printemps. Mon pays bien-aimé. Ô mon pays bien-aimé que j'ai quitté contre mon gré. Ce n'est pas moi qui ai choisi, mais ma chance et mon destin. Je suis en terre étrangère et ton image me harcèle. Ô Seigneur de grâce, ô Dieu de l'univers, je subis l'exil depuis ma jeunesse. Ceux qui me calomnient disent « c'est un hors-la-loi qui n'a plus refait surface ». Je suis semblable aux démons car ma raison s'égare et j'ai laissé parents et amis. Si durant ces années perdues j'étais demeurée dans mon pays, comme tous les jeunes de mon âge, chaque matin j'irais prier et au champ labourer et Dieu me viendrait en aide. Mais puisque je poursuis l'exil, me voici plein de regrets, et ma raison paye ses erreurs. Je ne puis oublier mon mal qui m'interdit de pleurer, me privant même de mes larmes. Me voici errant comme ombre, et en marchant, je sens mes jambes qui flageolent. J'implore Dieu le Seigneur pour que guérisse mon mal et que s'achève mon exil. pluriel. Tao Sam Rouge. Solitude, ma mère. Comme ma mère, l'Afrique, qui depuis des millénaires a été emboîtée, violée par les invasions successives, mais se retrouve ignoblement elle-même. Comme elle, je suis demeurée intacte malgré mes tribulations. Car je la sens encore frémissante en moi, l'ardente jeune fille, l'arbuse flamboyante que je faisais. À qui l'on demande de faire un bond de plusieurs siècles. Ignorante, poussant au gré du souffle rude de nos montagnes, mon destin eût été celui d'une fille de notre tribu, issue de la vieilleuse famille. Ni Racine, ni Mozart ne m'y sont manqués. C'est la civilisation qui fait de moi cet être hybride. Arrachés à des traditions ancestrales et me trouvant de sécurité nulle part, je ne pouvais qu'être flottante. Il me fallait sans cesse jouer à un jeu dont je ne possédais pas d'instinct les règles, face à des partenaires qui, eux, en avaient hérité avec la couleur de leurs yeux. Sans pays, sans ciel, muni d'un héritage spirituel n'ayant pas compte, pouvais-je m'en sortir mieux ? Je dépasse constamment la mesure. Depuis 25 ans, je me répète en vers que peu moins de passion, que plus de lenteur et d'indifférence ne soient là. C'est à croire que je ne suis ni respirer, ni me mouvoir dans mes semblables. Quel repos je suis prêté à me confondre avec les autres. Mais je me suis toujours vue seule en face de la masse des autres. Un texte de Jean Pellegri lors d'un colloque, le colloque Jean Amrouche, qui parle justement de Jean. Il est parfois des hommes qui naissent en portant dans leur tête des montagnes, des rochers, des torrents de cailloux, des gestes et des paysages hérités d'Hésiode. Mais qui, en raison des circonstances et des pièges de l'histoire, se trouvent contraints, malgré eux, d'exprimer cette réalité solennelle et familière dans une langue faite d'herbes et de ruisseaux, de lacs et de prairies. Ainsi, de Jean Amrouche. Ce berbère, ce muni de frugal et fastueux, s'il tient ses songes essentiels de sa mère et de sa montagne, c'est à Montaigne, Gide, Valérie et Claudel, qu'hérétique par nécessité, il emprunte, musique, vocabulaire, mot de passe. De là, pour lui et pour quelques autres, l'épreuve. Le couteau. Comment en effet transmettre sans sacrilège des chants rauques, archaïques et ocres dans la plus fluide des langues et la plus envoyante des syntaxes? Comment, sinon en acceptant les deux sens, les deux couleurs, les deux éléments, l'ocre et le vert, l'herbe et les rochers, l'eau et les cailloux? Parce que c'est ainsi que les beaux paysages se forment, par ensemencement et érosion. Ainsi de Jean Amrouche. liberté. Mouloud Mamri, la traversée. Bassalem avait un jardin tout au bas de la palmeraie de Timimoun. Sous les palmiers, il faisait pousser des tomates, des poivrons, des sillons d'orge sur le bord de ses guyas, comme tout le monde. Mais sa fierté, c'était les tournesols qu'il avait rapportés d'un voyage à Oran. Il y avait des années de cela. Les autres jardiniers lui demandaient « À quoi ça sert ?» Bassalem ne pouvait pas leur dire que ça ne servait à rien, mais lui pouvait rester des heures à les regarder virer sur leurs tiges pour toujours faire face au soleil. L'autre péché de Bassalem, c'était l'aheril. Au jardin, il consacrait juste ce qu'il fallait de temps, c'est-à-dire de l'aube au coucher du soleil. Mais les nuits, et souvent aussi le jour, quand c'était fête, ou bien quand il avait des compagnons, et Bassalem en avait beaucoup à croire que tout le Mourara n'était fait que des compagnons de Bassalem. Il s'en allait chanter dans les aheril, qui durait parfois plusieurs nuits. L'aheril était comme les tournesols, il ne servait à rien. Mais Bassalem ne pouvait pas vivre sans. Et s'il était revenu d'Oran, c'était parce qu'à Oran, il n'en avait pas. Sa femme et ses enfants ne mangeaient pas toujours à leur faim, mais ça, c'était le lot de tout le monde. Malgré cela, ils étaient fiers de lui, parce qu'à des kilomètres à la ronde, à Timimoun, comme dans l'Exar du Mourara le plus perdu dans la nuit d'une, il n'y avait pas d'aheril semblable à ce où Bassalem conduisait le cœur. Traversier toujours. Le professeur parle. J'ai pris Éluard parce que je l'aime. J'ai commencé la lecture dans le bourdonnement habituel des enfants, vous savez. Puis, vite, j'ai senti qu'il devait se passer quelque chose. Un silence absolu. Ce n'était pas normal. J'ai levé la tête. Fixés sur moi, comme s'ils attendaient quelque chose. Je ne comprenais pas. J'ai continué en bégayant un peu. Je ne suis pas arrivée à la fin parce que j'ai entendu renifler une fois, deux fois. À la fin, il y en avait trop. J'ai relevé la tête. J'ai essayé de continuer, mais je n'ai pas pu. À ce moment, la cloche a sonné. J'étais bien content. Je suis sortie très vite. Vous ne leur avez pas demandé pourquoi ils pleuraient ? Non. J'avais un peu honte. Honte ? Pourquoi ? J'avais l'impression que je trichais. Parce que pour moi, liberté, c'est bien, mais enfin, c'est de la littérature. J'avais l'impression que pour eux, ce n'était pas de la littérature. Je ne sais pas si j'étais bien.
Thank you.
femme. Moun Mamri, la colline oubliée. Je suis la fiancée du soir, et un jour, je descendrai à la rivière quand la lune sera déjà depuis longtemps levée. Je monterai le cours de l'eau vers la montagne, et partout où la rivière sera étale, je m'arrêterai. Et j'appellerai mes compagnes, toutes les autres fiancées du soir. Je les appellerai comme cela. Nous marcherons tout le temps que la lune marchera parmi les étoiles et la montagne s'approchera de nous. Et quand la lune rouge devant nous penchera du ciel sur les rochers et que l'obscurité va nous prendre, mes compagnes et moi, nous descendrons parce que nous aurons peur. Et à l'endroit où je les aurai appelées, nous nous séparerons. Effilée de sa main où la lune se jouait. Continuez de guider dans la nuit la procession de ses blanches compagnes. Suivez des yeux la lune qui tombait derrière le rocher. Elle faisait descendre l'obscurité en poussant les deux battants de sa fenêtre. C'est à peine si par la fente, un mince filet de lumière venait dessiner largement dans l'ombre une silhouette. Et Asie, passant tour à tour et par partie de l'ombre à la lumière, avait l'air d'une magicienne. Ses bracelets d'or faisaient dans l'obscurité comme des soleils blafards, et son profil, blémi par cette pâle lumière, avait l'immobile sérénité des momies des dieux morts. La lune tombait. Asie crispait effroyablement ses jolis traits, ouvrait les bras, écartait les doigts de ses mains et reculait de frayeur devant quelque chose que l'on ne voyait pas. La fiancée du soir avait peur des ténèbres. Elle poussait un cri aigu, terrifié, pour exhorter ses compagnes à fuir. Encore un peu, et elle allait défaillir. Ne me touche pas. Je suis la fiancée du soir. Nul n'a le droit de me toucher. Le jour, je ne vis pas. Je suis Asie. Mais la nuit, je suis la fiancée du soir. Et je parle avec la rivière et le vent. Nul n'a le droit de me toucher que les rivières, mes brises et mes compagnes. Car dès que le jour meurt, je suis la fiancée du soir. Ne me touche pas. Je suis la fiancée du soir et le soir est jaloux. Il mange les fiancées qui ne lui sont pas fidèles. Et en remontant la rivière, la nuit, on voit surgir de l'eau les fantômes en deuil de celle-là qui a déjà mangé. Femme toujours, Tarjaout, pérenne, terre ferme. Tes odeurs aquatiques et la noria me prend. Il me revient des images de noyades lorsque, la mercredi, libère sa tendresse vorace de mer anthropophage. Il me revient des insistances de sève ruant dans les barreaux des peaux contraignantes. J'aimais l'aventure sans issue, alors que j'étais déjà riche de tant de cargaisons. Mes mains arraisonnaient ton corps, louant leurs énigmes dévoreuses, débusquant l'or des florines. Je savais par exemple que l'aréole sentait l'orange amère. Je connaissais presque tout. Tes marées tenues en laisse, ta cadence respiratoire, la résine de tes aisselles. Ton odeur de mer lactée, tes ombres qui m'abritent le soir, tes gestes qui adoucissent mes angles. Mon sexe, je l'appelais paradisier. Des odeurs submarines et la lauria m'entraînent. Quand j'émerge, tu es là pour amarrer le vertige. Ton corps, c'est la terre ferme. Nejma est très brune, presque noire. C'est de la chair noire, nerf tendu, solidement charpentée, de taille étroite. Des jambes longues qui lui donnent, quand elle court, l'apparence des calèches hautes sur roues qui virent de droite et de gauche, sans dévier de leur chemin. Vastitude de ce visage de petite fille. La peau, d'un pigment très serré, ne garde pas longtemps sa pâleur native. L'éternel jeu de Nejma est de réduire sa robe au minimum en des poses acrobatiques d'autruche enhardies par la solitude. Sur un tel pelage, la robe est un surcroît de nudité. La féminité de Nejma est ailleurs. Le premier mois d'école, elle pleure chaque matin. Elle bat tous les enfants qui l'approchent. Elle ne veut pas s'instruire avant d'apprendre à nager. À 12 ans, elle dissimule ses seins douloureux comme des clous, gonflés de la mère précocité des citrons verts. Elle n'est toujours pas domptée. Les yeux perdent cependant de leur feu insensé. Brusque, câline et rare, Nejma. Elle nage seule, rêve et lit dans des coins obscurs. Amazon de Bébara, vierge en retraite. Cendrillon aux souliers brodés de fils de fer. Le regard s'enrichit de secrètes nuances. Jeu d'enfant, dessin et mouvement des sourcils, répertoire de pleureuses, d'almées ou de gamines. Épargnée par les fièvres, Nejma se développe rapidement comme toute la méditerranéenne. Le climat marin répand sur sa peau un hâle, combiné à un teint sombre, brillant de reflets d'acier, éblouissant comme un vêtement mordoré d'animal. La gorge a des blancheurs de fonderie, où le soleil martèle jusqu'au cœur et le sang, sous les joues duveteuses, parle vite et fort, trahissant les énigmes du regard. Injustice. Kateb Yassine, Nejma, Sétif, 1945. J'ai tracé sur le sable un plan de manifestation future. Qu'on me donne cette rivière et je me battrai. Je me battrai avec du sable et de l'eau fraîche. Du sable chaud. Je me battrai. J'étais décidée. Je voyais donc loin, très loin. Je voyez un paysan arc-bouté comme une catapulte. Je l'appelais, mais il ne vint pas. Il me fit signe. Il me fit signe qu'il était en guerre. En guerre avec son estomac. Tout le monde sait qu'un paysan n'a pas d'esprit. Un paysan n'est qu'un estomac. Injustice toujours. Je vais vous lire un texte, cette fois-ci d'Emmanuel Robles, qui donc vivait en Algérie, qui était algérien lui aussi, et qui a écrit ce texte dans les hauteurs de la ville. C'était un ami de Mouloud Feraoun, et c'est lui avec Albert Camus qui avait poussé Mouloud Feraoun à écrire, donc on leur doit beaucoup. Emmanuel Robles, l'enfant et l'injustice. Des rivages d'Europe, leur père était venu comme un vol de gerfaux. Eh oui, j'avais appris Heredia à l'école. J'avais appris tant de choses à l'école. Et que les hommes naissent libres et égaux en droit. Et qu'il faut respecter le bien d'autrui. Et que mourir pour la patrie est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Je me retournais sur le lit, le nez contre la cloison. Notre instituteur, un homme que j'avais beaucoup aimé, nous enseignait qu'il était bon de rester parfois en tête à tête avec soi-même. J'avais découvert que cela m'entraînait dans des profondeurs d'où je remontais l'esprit troublé, le cœur criblé de pointes. Le monde que mon maître, il était de Marseille avec un accent d'ail et de soleil, m'avait décrit à l'école, était un monde fabuleux dont je n'avais jamais pu superposer les images à celle de la réalité. Je découvrais toujours un décalage, comme pour ces photos polychromes dont une couleur déborde et gâte irrémédiablement l'ensemble. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Ce chant aussi, on me l'avait appris. De tous les chants scolaires, celui-là possédait une vertu magique. Lorsque nous reprenions le refrain tous en cœur, une grande vague me soulevait avec d'étincelantes gerbes d'écume. Je l'avoue, j'aimais me réfugier dans le souvenir de ces jeunes années en dépit de certaines tâches qui l'assombrissaient. Comment, par exemple, oublier la voix de cette femme, la mère d'un de mes camarades, qui rappelait son fils en disant « Je te défends de jouer avec un arabe ». Bien sûr, il faut résister à cette douleur qui subitement enflamme le cœur. Facile à dire. Almaro existait aussi. Il creusait la pierre. Je l'imaginais dans tous les doigts lorsqu'il allait recruter des manœuvres. Tous les faits là autour de lui, silencieux et soumis. Et il leur parlait de leur misère qui était grande. Comment le nier? Et il l'écoutait. Lui qui les méprisait et qui s'enrichissait de leur misère. Terminer sur une note d'espoir, fraternité. d'abord une lettre de Mout Firaoun à Albert Camus pour le remercier. Taourit Moussa, le 27 mai 1951. Cher monsieur, je viens de recevoir ici, à Taourit Moussa, la visite de mon ami Robles. Il m'a dit tout le bien que vous pensez de mon petit ouvrage et m'a donné votre adresse que je désirais connaître depuis longtemps. L'hiver dernier, j'avais demandé à Pierre Martin du SCI de vous faire parvenir un exemplaire du Fils du Pauvre. Lui aussi pouvait me communiquer votre adresse, mais je n'avais pas osé vous écrire. Je suis très heureux d'avoir réussi à vous intéresser parce que je vous connais depuis longtemps. Je vous ai vu en 1937, à Tizi Ouzou. Nous étions alors bien jeunes. Vous écriviez des articles sur la Kabylie dans l'Alger républicain, qui était notre journal. Oui, j'ai lu La Peste et j'ai eu l'impression d'avoir compris votre livre comme je n'en avais jamais compris d'autres. J'avais regretté que parmi tous ces personnages, il n'y eut aucun indigène. Et Coran ne fut à vos yeux qu'une banale préfecture française. Oh, ce n'est pas un reproche. J'ai pensé simplement que s'il n'y avait pas ce procès entre nous, vous nous auriez mieux connus. Vous vous seriez senti capable de parler de nous avec la même générosité dont bénéficient tous les autres. Je regrette toujours, de tout mon cœur, que vous ne nous connaissiez pas suffisamment et que nous n'ayons personne pour nous comprendre, nous faire comprendre et nous aider à nous connaître nous-mêmes. J'ai l'intention d'écrire, de parler de nos compatriotes tels que je les vois, mais je n'ai pas d'illusion. Ma vue sera forcément trop courte et mes moyens trop réduits, car il n'est pas vrai que le bon sens soit si bien partagé qu'on le dit. Si je parvenais un jour à m'exprimer sereinement, je le devrais à votre livre, à vos livres qui m'ont appris à me connaître, puis à découvrir les autres et à constater qu'ils me ressemblent. Ne puis-je donc pas me payer ce ridicule ? Tenter à mon tour d'expliquer les Kabyles et montrer qu'ils ressemblent à tout le monde ? À tous les Algériens, par exemple ? Bien entendu, il ne m'en coûtera pas cher d'échouer. Je suis un bon maître d'école. J'ai beaucoup d'élèves, j'aime ma classe. Je ne demande rien et je rêve à mon aise. J'ai réussi à attirer sur nous l'attention de Odioso, Camus, Robles. Le résultat est magnifique. Vous êtes Algériens tous trois. Et vous n'avez pas à nous ignorer. Je vous remercie. Fraternité toujours. Une lettre très émouvante écrite par Tahar Jaoud, qui écrit un hommage à Mout Firaoun, qui avait été assassiné par l'OAS, sachant que Tahar Jaoud allait être assassiné à son tour quelques années plus tard par le GIA. Voilà. Tahar Jaoud, l'arche à volo, à Firaoun. Je pense à Firaoun. Sourire figé dans la circoncision du soleil. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur des plumes intègres. Ils ont peur des hommes humains. Et toi, Mouloud, tu persistais à parler de champs, de blé pour les fils du pauvre, à parler de pulvériser tous les barbelés qui lacéraient nos horizons. Un jour, enfin, Mouloud, la bonté triompha et nous sûmes arborer le trident du soleil et nous sûmes honorer la mémoire des morts, car avec tes mains glaneuses des mystères de l'aube et ton visage rêveur de barbe invétérée, tu as su exaucer nos vérités, écrites en pan de soleil, sur toutes les poitrines qui s'insurgent. Comme conclusion, nous allons revenir au printemps des poètes officiel. Cette année, le thème était la grâce. Alors, je me suis dit que la grâce, ce serait de rappeler combien nous sommes ensemble, et ça signifie que on va quitter la Kabylie pour aller dans cette région pas loin, qu'on appelle cimetière à ciel ouvert. Et nous allons recréer cet ensemble à partir de deux autres poètes qui sont venus de cette région et qui justement n'ont cessé de clamer cet ensemble malgré tout. Ces deux poètes, ce sont tout d'abord Mahmoud Darwish, poète palestinien. Deux textes magnifiques que je vais vous lire pour recréer cet ensemble. Donc, plus rares sont les roses, et nous aimons la vie autant que possible. Nous dansons entre deux martyrs. Entre eux, nous érigeons pour des violettes minarets et des palmiers. Nous aimons la vie autant que possible. Nous volons un fil au vert à soie pour tisser notre ciel et clôturer cet exode. Nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin inonde les routes comme une belle journée. Nous aimons la vie autant que possible. Là où nous résidons, nous semons des plantes luxuriantes et nous récoltons des tuées. Nous soufflons dans la flûte la couleur du lointain, lointain. Et nous dessinons un hennissement sur la poussière du passage. Nous écrivons nos noms pierre par pierre. Oh, éclair, éclair pour la nuit, éclair un peu. Nous aimons la vie autant que possible. Aurait été autre. L'occupation finie, le nouveau-né aurait oublié les temps du siège. Il aurait grandi en bonne santé, serait devenu un jeune homme, aurait étudié avec l'une de tes filles l'histoire ancienne de l'Asie. Et il aurait pu s'aimer, donner jour à une fille. Et elle serait juive de naissance. Qu'as-tu donc fait? Ta fille est aujourd'hui veuve. Ta petite fille orpheline. Qu'as-tu fait de ta famille fugitive? Comment as-tu pu, d'une seule balle, abattre trois colons? Terminer avec cette idée d'ensemble absolument nécessaire, ce dernier texte d'Edith Lézou, une poétesse juive qui a écrit des poèmes jusque dans le train qui la conduisait à la mort. Elle avait 29 ans. Martha Reswitch, 43. Plus j'avance, je crois à une spiritualité. brutalité dans la vie de tous les jours, à une mise en pratique contraignante des principes intérieurs. Que serait une éthique sans pratique du vent? J'ai trouvé une astuce qui me rend joyeuse. Dire merci à Dieu pour tout ce qui m'apprend quelque chose. Ce n'est pas seulement le bonheur ou la facilité. On ne s'épanouit pas que dans la facilité. La gratitude me garde tournée vers la source de la vie. Non, je ne perds pas de vue que m'attendent des jours d'oppression, des jours de faim, de froid et de misère, des jours et des nuits de tourmente. Il y aura notre convoi. Je le disais et je n'ai aucune illusion. Et d'ailleurs, je n'en voudrais pas une existence sans les autres, tous les autres. Je ne voudrais pas d'un destin qui m'écarte de porter le poids que nous avons apporté. Ensemble. C'est terminé pour les textes. Vous l'avez compris? L'Acadie, c'était un grand prétexte. C'est notre pays d'origine. Et nous n'avons pas voulu y rester, bien sûr. Nous avons fait un petit clin d'œil au printemps des poètes, parce que c'était le hasard du calendrier. Nous l'avons dépassé, je crois. Et je vais vous laisser avec nos musiciens. Sofiane, merci.